pedimos al gobierno de los Estados Unidos.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
قررت الدولة الإسلامية.
L'État islamique.
La France est attendue pour éviter une catastrophe.
Il n'y a pas que la dictature, le chaos et la violence. Il y a la liberté, la démocratie, le vivre ensemble, la paix.
Bienvenue à l'écoute d'une semaine dans le monde, l'actualité internationale, chaque dimanche de l'été en direct. Analyse, chronique, portrait, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Au programme de ce dimanche 24 juillet, nous reviendrons sur la fusillade survenue vendredi soir à Munich. On le sait maintenant, le tueur n'a pas agi au nom du djihadisme. Cela n'en reste pas moins un choc pour l'Allemagne. Nous serons au téléphone avec la spécialiste de l'Allemagne, Hélène Millard de la Croix. L'émission sera ensuite consacrée à la situation en Syrie et en Irak. Un nouvel attentat ce matin à Bagdad, revendiqué par l'État islamique, a fait 10 morts. Les États-Unis promettaient il y a quelques jours d'intensifier les frappes contre l'organisation et de reprendre Mossoul dans les mois à venir. Combat des décisif également à Alep, désormais en état de siège. Et on apprend ce matin que le gouvernement syrien serait prêt à entamer de nouveaux pourparlers de paix avec l'opposition. Les enjeux de ces derniers événements avec nos invités, les chercheurs Ziad Majed de l'Université américaine de Paris et Lolowa Al-Rachid du CERI à Sciences Po. En deuxième partie, cap sur la Grande-Bretagne. La nouvelle première ministre Theresa May était à Berlin et à Paris cette semaine pour négocier un délai sur le Brexit et poser les bases de sa nouvelle diplomatie. Mais sans l'Europe, quel avenir pour l'influence britannique dans le monde? Nous poserons la question à Mélanie Torrent et Vivien Pertuso, tous deux spécialistes du Royaume-Uni et de sa politique étrangère. Et enfin, nous retrouverons la chronique proposée par Hubert Védrine, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et on commence par la situation en Allemagne après la fusillade vendredi soir qui a fait 9 victimes et 27 blessés dans un centre commercial à Munich. Nous sommes en ligne avec la spécialiste de l'Allemagne contemporaine, Hélène Millard de la Croix. Bonjour.
Bonjour.
Alors l'homme semblait fasciné par les tueries de masse. On le sait maintenant à la une de la presse dans les journaux allemands. Amoklauf, c'est le terme qui revient. Amoklauf qu'on pourrait donc traduire, vous allez me corriger, par folie meurtrière.
Oui, c'est cela. C'est un phénomène que l'on connaît assez peu en France, qui est très très fréquent aux États-Unis et qui a eu lieu plusieurs fois en Allemagne ces dernières années, c'est-à-dire une espèce de coup de folie de quelqu'un, souvent un jeune, qui prend des armes et qui tue des gens tout autour de lui dans une école, dans un cinéma, dans un lieu public. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Amoklauf en allemand.
Oui, vous l'avez dit, on a plus ou moins l'habitude de voir ces phénomènes aux États-Unis. Néanmoins, en Allemagne, il y avait déjà eu en 2006, en 2009, des actes similaires. À chaque fois dans des collèges, des lycées, des actions violentes par de très jeunes personnes. Comment ces actes avaient-ils été vécus à l'époque en Allemagne ?
Ben, vous imaginez bien qu'en général, la population est absolument effondrée de voir à la fois une folie meurtrière et qu'en plus ce soit commis par un jeune qui s'en prenne à ses camarades de classe. Et surtout, ce qui est très troublant, et on le serait pareil en France, et là je ne pense pas qu'il y ait de spécificité nationale, c'est que c'est absolument effondrant, si vous voulez. C'est inacceptable de considérer qu'un homme, un jeune homme, puisse être ainsi fasciné par la violence à ce point. Ce qui permet de poser d'autres questions qui sont en amont, quels auraient pu être les signes avant-coureurs, et puis surtout, d'un point de vue logistique, comment se fait-il que l'on puisse se procurer à cet âge-là une arme d'un tel calibre qui permet de tuer aussi largement, comme on le voit dans les jeux vidéo. Et c'est un peu ce qui est en débat dans les journaux allemands aujourd'hui.
Et puis, il y a aussi le phénomène de mimétisme. Hein. Le geste a eu lieu 5 ans après les attaques d'Andrés Breivik en Suède. Là aussi, pour vous, il y a des liens, des gestes avant-coureurs, ou est-ce que bon, il faut acter qu'on est totalement dépassé par ces phénomènes?
Bon, qu'on soit bien clair, moi je ne suis ni sur le lieu de l'enquête en Allemagne, ni psychologue, donc je ne peux pas vous expliquer cela. Qu'il y ait un phénomène de mimétisme 5 ans, quasiment jour pour jour, après la folie meurtrière de Breivik en Norvège, manifestement, d'après ce que j'ai lu, mais j'ai lu les mêmes choses que vous et vos auditeurs, c'est-à-dire qu'il semblerait que les policiers en Allemagne aient trouvé au domicile de ce jeune homme beaucoup de documentation sur ses actes et une relative fascination. Pour autant, je crois que ce qui est frappant, c'est que, enfin moi ce que je retiens surtout de cet événement, c'est que on a affaire là une fois de plus à un acte meurtrier massif de la part d'un jeune qui vient 4 jours après l'attaque dans un train près de Würzburg par également un jeune de 17 ans qui là avait revendiqué, enfin avait inscrit son acte dans ce que l'islamisme commanderait entre guillemets de faire contre les mécréants que nous sommes. Et il y a là en effet dans les, c'est aussi ce que craint le gouvernement allemand et ce que craint la police, c'est que des jeunes divers fragiles, perméables à des organisations, à des discours d'organisation mondiale, et qui en plus ont un discours extrêmement simpliste, une explication du monde où tout est en ordre, puissent vouloir imiter et d'une certaine façon exister un court moment, comme l'aurait dit Warhol, un court moment avant de mourir dans un acte à la fois grandiose et qui puisse rappeler aussi, j'ai évoqué les jeux vidéo, ça fait partie des interrogations que l'on a ces derniers temps aussi dans les médias allemands. Je crois que c'est ce lien qu'il faut voir. Alors après, l'autre question qui se pose et qui est pour nous très intéressante en tant qu'observateur cette fois-ci de ce qui se passe chez notre voisin allemand, c'est islamisme, pas islamisme. Cet attentat, dans un premier temps, a été immédiatement lu comme une attaque islamiste à laquelle l'Allemagne devait s'attendre nécessairement, puisqu'il y avait eu
exact. La même chose. Il y avait eu, vous l'avez rappelé, effectivement, une attaque lundi en Bavière, celle-ci revendiquée et par l'auteur et par État islamiste, effectivement, mais on comprend pourquoi l'hypothèse terroriste, vous le dites, était dans toutes les têtes. Et néanmoins, c'est quand même un phénomène nouveau pour l'Allemagne.
Oui, tout à fait. Alors, il y a deux questions là. Il y a le fait que ce soit un phénomène nouveau et le fait que ça a été la lecture immédiate. Je pense que c'est parfaitement lié, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression ces derniers temps, quand on était observateur de l'Allemagne et quand on est en Allemagne même, c'est que l'Allemagne resterait quasiment une anomalie par rapport à ses voisins européens en n'étant pas la cible d'attaques terroristes. Avec un sentiment que ces derniers temps en Allemagne, à la fois de se sentir finalement pas si mal que ça et cherchant des explications pourquoi la France est-elle aussi autant la cible d'attentats historiques. Moi, je suis régulièrement interrogée par des Allemands, me demandant, mais votre pays va mal, vous êtes régulièrement la cible d'attentats, votre intégration, l'intégration des enfants d'immigrés s'est mal passée, etc. Sous-entendu, nous, chez nous, nous allons bien. Il y avait un petit peu ces derniers temps cette impression-là.
Et ça, vous avez l'impression que c'est en train de s'effriter, climat de peur est en contagion jusqu'en Allemagne?
C'est-à-dire que en nous posant ces questions, les Allemands en même temps se disaient, mais nécessairement ça risque de nous arriver à nous aussi en Allemagne. Donc il y avait, les gens observent notamment à travers la télévision des scènes absolument violentes et comme ont pu l'être aussi les dispositifs policiers, même sans venir en France. Il suffit d'allumer sa télévision. En Allemagne, on sait comment les choses se sont passées en janvier 15 avec Charlie Hebdo, en novembre 15 et puis de nouveau à Nice. Et c'est relativement naturel, si vous voulez, qu'immédiatement, lorsqu'il y a eu annonce coup de feu, tuerie, les rues sont fermées, qu'il y ait eu une impression que ça y est, ça nous arrive à nous, nécessairement nous allions être aussi la cible. Parce que, vu de l'extérieur, on a un certain nombre d'explications très simples pour dire qu'en effet, la France est plus facilement la cible, parce que la France est active dans la coalition en Syrie de manière vraiment aux premières loges, que la France a des difficultés à gérer le fait religieux, le fait musulman, et puis la France est aussi un peu confrontée à des situations de concentration dans des banlieues qui semblerait-il amènerait certains jeunes à des actes hostiles.
Hélène Millière de la Croix, pardon. Dernière question sur la question de la sécurité en général en Allemagne. Est-ce qu'il existe un équivalent de l'état d'urgence français? Est-ce qu'à votre avis, on pourrait voir le même débat qu'en Allemagne qu'en France sur les questions d'arbitrage entre sécurité et liberté? Comment la question se pose-t-elle en Allemagne?
Alors, pour cela, il faudrait que la question se pose de la même façon qu'en France, c'est-à-dire qu'on soit confronté à des attaques de masse. Je vous rappelle qu'en France, on en est quand même à la troisième, si on élimine aussi certains actes isolés. L'Allemagne n'a encore jamais connu cela. Donc la question ne se pose pas. D'un point de vue strictement constitutionnel, oui, l'Allemagne dispose d'un dispositif d'état d'urgence, qui avait d'ailleurs, au moment où il avait été créé dans la Constitution dans les années 60, était l'objet de très très grandes protestations de la part de différents intellectuels et de démocrates et du monde de la gauche, en considérant que c'était créer un dispositif qui donnait un trop grand pouvoir à l'exécutif sans le contrôle du législatif. Donc le dispositif existe. Je ne vois pas, moi, à quelconque horizon, là, pour l'instant, l'Allemagne recourir à ce type de choses. Je pense qu'ils observent depuis un an avec très grande attention les dispositifs policiers et de renseignement qui ont été mis en place en Belgique et en France, en en tirant le meilleur, peut-être en en tirant des leçons pour faire mieux. Il y a des coopérations très intenses entre les polices et je pense que l'Allemagne est de ce point de vue préparée. Que l'opinion le soit, c'est une autre affaire. Mais d'un point de vue technique, si vous voulez, logistique, je pense que l'Allemagne est préparée de la même façon que ses voisins européens
et bien
partenaires européens.
Merci beaucoup Hélène Mière de la Croix pour ces premiers éléments d'éclairage, de compréhension. Je précise qu'Olivia Gesbert reviendra plus longuement sur la situation en Allemagne dans les matins de lundi. Et juste avant d'aborder nos deux grands sujets de la semaine, c'est la revue d'actu avec vous, Xavier Martinet. Bonjour.
Bonjour.
Et que fait la France en Libye? C'est la question qui se pose après cette annonce faite mercredi par le président Hollande lui-même du décès de 3 sous-officiers français non loin de Benghazi.
Oui, alors il y a peu de précisions des autorités françaises sur ce crash d'hélicoptère qui a coûté la vie dimanche dernier à 3 hommes qui pourraient être de la DGSE, selon la presse, qui sont des sources haut placées. Reste qu'en Libye, en effet, les esprits se sont échauffés le soir même de l'annonce de l'incident. Des manifestations hostiles à la France ont réuni des milliers de personnes dans 4 villes du pays. Slogan anti-français, drapeau tricolore piétiné, la colère était donc perceptible. Rappelons juste le contexte très trouble en Libye. Malgré un récent accord d'unité nationale parrainé par l'ONU, le pays reste très divisé, pour simplifier, entre l'Ouest et l'Est, politiquement et militairement. Alors dans ce contexte, la présence française à Benghazi dans l'Est, auprès du général Haftar, qui est considéré par la moitié Ouest du pays comme son ennemi direct, peut être effectivement source d'ambiguïté. Le problème, c'est que les informations sont difficilement vérifiables et servent d'argument. Ainsi, un groupe appelé les Brigades de Défense de Benghazi, qui se bat contre Haftar, affirme avoir abattu un de ses hélicoptères et subi des représailles. Les Français auraient été ainsi victimes d'un tir et non d'un accident. La suite est racontée par Abdullah Mohamed Ibrahim, c'est le rédacteur en chef du journal Libya Observer.
En fait, ce sont les brigades de défense de Benghazi elles-mêmes qui ont affirmé que la France avait tué 13 de leurs combattants dans un bombardement aérien, même si la France n'a rien confirmé à ce sujet. En ce qui concerne ces manifestants, ce qui les rassemble, c'est qu'ils s'opposent à toute intervention étrangère en Libye. Et c'est vrai que tous sont favorables à la milice oblibienne qui domine à l'ouest. C'est pour ça que le grand moufti à Tripoli a parlé des frappes sur les brigades comme d'une déclaration de guerre. Par ailleurs, des institutions nationales ont pris des positions très fermes, comme l'Institut de la Fatwa libyen. Il a appelé au boycott des produits français et il a demandé à ce que l'organisation de la conférence islamique rompe ses liens avec la France, en réponse à ces frappes. Plus que ça, il a évoqué une mobilisation générale pour défendre la Libye et combattre l'intervention française dans le pays. Et je dois dire aussi que pour les manifestants, il y a de nombreuses questions sans réponse. Au fond, ils se demandent pourquoi la France attaque les brigades de Benghazi au lieu de l'État islamique. Les manifestants disent que la France a affirmé qu'elle était en Libye pour combattre les groupes extrémistes. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas encore attaqué Daesh à Sirte ?
Et le gouvernement d'unité nationale libyen a lui aussi exprimé son profond mécontentement. Il parle de violation de territoire. Est-ce qu'on va vers une crise diplomatique, Xavier ?
En fait, ce sont surtout les milices locales qui tiennent les discours les plus virulents. Alors, on l'a entendu pour Tripoli à l'ouest. Et puis, hier aussi, une coalition des milices de Benghazi appelait ainsi à l'expulsion des forces françaises dans les termes du djihad classique. On pourrait dire agression, invasion de croisée. C'est donc tout le jeu politique qui est compliqué en Libye où chaque force, y compris le gouvernement d'unité nationale, est en recherche de légitimité. Et les Occidentaux également, qui sont à la fois parrains insistants du processus de paix et aussi soutien dans la guerre qui n'en finit pas. Alors pour le responsable Afrique du Nord à l'International Crisis Group, cet accord d'unité nationale justement a peut-être été signé trop vite. Écoutez Issandre El Amrani.
Il y a des présences occidentales qui diffèrent. Les Américains, pour l'instant, sont savoir plutôt des observateurs. La France est impliquée de manière plus sérieuse au niveau opérationnel auprès de l'armée nationale libyenne. À quel point, on ne sait pas encore. Et d'autres pays, dont la Jordanie, auraient aussi participé à des opérations auprès des troupes du général Haftar. Donc, plusieurs pays, en fait, ont des positions ambiguës. C'est un peu au centre de la grande question, c'est que est-ce que ce processus de paix peut encore durer? Aujourd'hui, il a quelque part créé de nouveaux problèmes, peut-être plus de problèmes qu'il en a réglé, parce que cet accord a été imposé sur une partie des acteurs libyens, qui, dès le début, l'ont rejeté. Aujourd'hui, on fait face à ces conséquences. La réalité, c'est que si pour les Européens, par exemple, la question des migrations et de lutte contre le djihadisme est prioritaire, notamment après les attentats de novembre dernier à Paris, ce n'est pas une priorité pour les Libyens. Et je crois aussi notamment la grande erreur de 2015 et qu'il n'y avait pas de dialogue sécuritaire entre les acteurs libyens. Il était censé y être, mais il n'a jamais vraiment eu lieu, alors qu'aujourd'hui c'est essentiel, parce que c'est clair qu'en Libye, les gens qui contrôlent les choses sur le terrain, ce sont les milices et les militaires. Ce ne sont pas les hommes politiques.
Autre front, c'est l'Ukraine qui annonçait lundi la perte de 7 soldats dans l'est du pays. Malgré les accords de Minsk et la signature d'un cessez-le-feu, la guerre dans le Donbass est loin d'être terminée.
Oui Mélanie, officiellement le bilan global au bout de 2 ans de guerre est désormais de 9400 personnes tuées, militaires et civils confondus. Mais ce sont des informations pour l'Ukraine difficilement vérifiables et sans doute largement sous-évaluées. Pour les seuls soldats gouvernementaux par exemple, 400 d'entre eux seraient morts depuis janvier dernier. Alors certes, vous l'avez dit, depuis les accords de Minsk de février 2015, qui prévoyait, je le rappelle, le retrait des armes lourdes. La guerre a baissé en intensité, mais elle reste très meurtrière, notamment autour de Donetsk, Luhansk et des petites localités qui ponctuent la ligne de front. Le conflit a donc tourné en une guerre qu'on appelle d'attrition, et à défaut de bataille décisive, eh bien, aucun des acteurs n'a vraiment envie de la voir se terminer maintenant. Écoutez les explications du journaliste indépendant basé dans la région, Stéphane Sion.
Ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que les combats se déroulent à peu près sur toute la ligne de front, mais avec ce qu'on appelle des hotspots, des points chauds. Il y a certaines localités où les combats n'ont jamais cessé depuis 2 ans. Maintenant, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a des ruptures du cessez-le-feu qui sont imputables aux séparatistes. Les tirs continuent depuis les régions autour de Donetsk et de Lugansk. Mais malgré le discours officiel à Kiev, l'armée ukrainienne n'est pas toute blanche. Elle a également maintenu un niveau d'activité assez important depuis 2 mois. Il est assez difficile d'imaginer ce qui se passe, mais l'analyse de beaucoup d'observateurs, c'est que pendant les 2 mois qui ont précédé le sommet de l'OTAN à Varsovie, qui s'est déroulé au début du mois de juillet, les Ukrainiens, politiquement, avaient intérêt à maintenir un degré d'activité militaire. Parce que, à un moment donné, le soutien des Occidentaux, que ce soit les Européens ou les Américains, dépend également de ce conflit. Et si cette guerre s'arrête, quelque part, il n'y a plus besoin d'aider l'Ukraine. Donc, on sentait peut-être que les Ukrainiens voulaient arriver au sommet de l'OTAN, à Varsovie, en pouvant dire à leurs partenaires occidentaux, eh bien, vous voyez, la Russie continue de nous agresser, il faut poursuivre votre soutien envers l'Ukraine.
Voilà une situation toujours tendue à l'Est et qui se tend aussi dans la capitale Kiev, puisque je le rappelle, c'est cette semaine que le journaliste critique Pavel Cheremet a été assassiné dans l'explosion de sa voiture.
Merci beaucoup Xavier, vous restez avec nous bien sûr. Le 26 juin, l'armée irakienne chassait l'État islamique de la ville de Fallujah. Une victoire décisive et peut-être une première étape dans la reconquête des territoires occupés par Daesh. La coalition internationale semble désormais déterminée à reprendre Raqqa et surtout Mossoul, considérées comme les capitales de l'organisation en Syrie et en Irak. Une reprise a même été annoncée, sinon espérée, pour la fin de l'année. Un pari ambitieux. Réunis ce jeudi à Washington, les alliés de la coalition se sont dit décidés, je cite, à terrasser la tumeur djihadiste. En 2 ans d'existence, la coalition aurait mené 14 000 frappes, mais en attendant, l'État islamique continue de résister et surtout de semer la terreur dans le monde à travers les crimes qu'il inspire. Hier, un attentat revendiqué par l'organisation a fait 80 morts à Kaboul, principalement dans la minorité chiite qui manifestait ce jour-là. Et ce matin, on apprend qu'une explosion a fait 10 morts à Bagdad. Alors que faire, sans compter que les Occidentaux ne sont pas les seuls engagés sur le terrain. Côté syrien, la Russie continue de soutenir le gouvernement syrien contre les djihadistes, mais aussi contre l'opposition modérée. Alep, jusqu'ici fief des rebelles, est désormais encerclé par l'armée de Bachar el-Assad. Autre siège qui pourrait rebattre les cartes des rapports de force dans la région. Et pour faire le point sur tous ces enjeux, nous sommes en compagnie de Ziad Majed. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Vous avez notamment écrit, c'était en 2014, « Syrie, la révolution orpheline » publiée aux éditions Actes Sud. Et puis nous sommes également avec Lolowa Al-Rachid. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse associée au CERI, le Centre de Recherche International de Sciences Po. Vos travaux portent notamment sur l'Irak. Alors, je le disais ce matin, attentat à Bagdad, 10 morts revendiqués. Hier, Kaboul, 80 morts. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la stratégie de Daesh est de maintenir la pression, surtout après les déclarations des États-Unis cette semaine ? Lolowa Al-Rachid ?
Oui, alors depuis l'été 2015, en fait, Daesh ne cesse de reculer territorialement en Irak. Daesh a pratiquement perdu la plupart des grandes villes sunnites qui étaient tombées sous son contrôle. Il ne reste plus aujourd'hui que la grande ville du nord, qui est la ville de Mossoul. Alors, on constate effectivement que ces revers territoriaux, ces revers militaires, sont compensés par un retour à une stratégie insurrectionnelle classique, similaire à celle qu'Al-Qaïda avait déployée en Irak à partir des années 2003-2004. 2004 contre l'occupation américaine et cette stratégie frappe essentiellement Bagdad, frappe les lieux qui ont une forte identité chiite pour exacerber les tensions interconfessionnelles entre sunnites et chiites bien entendu, mais aussi pour embarrasser le gouvernement de Bagdad, ce gouvernement qui est soutenu à coups de milliards de dollars par la communauté internationale et on constate au passage que la phraséologie de cette coalition internationale en guerre contre Daesh en fait s'approche de plus en plus de la phraséologie de l'État islamique. Il s'agit de les terrasser, d'extirper le cancer, la tumeur. Donc on est vraiment dans une surenchère de part et d'autre dont les principales victimes sont, comme en Syrie et ailleurs, les populations civiles. Ce sont les habitants de Bagdad qui ont déjà fait les frais d'un attentat extrêmement sanglant il y a à peine 15 jours, 3 semaines. On est à plus de 300 morts dans l'attentat de Karada. C'est l'attentat le plus meurtrier qu'ait connu l'Irak depuis 2003. Donc là encore, tout cela pour dire, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, c'est que l'outil militaire, la logique exclusivement militaire, sécuritaire, la logique de bombardement et d'intensification des interférences des puissances occidentales sous forme de commandos, on a parlé de la Libye, on est dans des situations complètement aberrantes dans lesquelles les puissances occidentales placent des hommes, des commandos, des troupes d'élite dans chacune des milices qui sont en guerre les unes contre les autres. Et cette politique de finalement en guise de politique étrangère, nous en sommes réduits à des magouilles du monde du renseignement. Il n'y a rien d'autre que des interférences de ce type et encore une fois, cela ne fait pas avancer, ne laisse pas du tout entrevoir une sortie de crise politique négociée parce que là encore, l'outil militaire ne parviendra pas à résoudre les multiples dynamiques de conflits qui traversent ces sociétés.
Vous avez parlé de cet attentat très très meurtrier à Bagdad le 4 juillet, donc plus de 300 morts qui en fait survenaient quelques jours, une semaine à peine après la reprise de Fallujah. Pour vous aussi, Ziad Majed, il y a vraiment un lien de cause à effet entre perte de territoire de Daesh et intensification des attentats ?
Oui, il y a certainement une relation et je suis tout à fait d'accord avec Lolowa, c'est que cette approche sécuritaire montre ses limites. C'est vrai que on peut battre l'État islamique, les forces qui le combattent peuvent récupérer des villes et après, en l'absence d'un processus politique, en l'absence d'une participation politique au gouvernement à Bagdad, en l'absence d'une fin, d'une page dans l'histoire aussi du régime syrien par exemple, on peut toujours voir l'émergence de phénomènes qui ressemblent à Daesh. Dans le cas irakien, il faut le rappeler, Al-Qaïda version Abu Musab al-Zarqawi a subi des défaites militaires. On parlait même de sa disparition en 2009 et nous voilà aujourd'hui avec Daesh encore plus puissant qui contrôle ou bien qui contrôlait une grande partie du territoire irakien. Donc cette logique sécuritaire seul ne suffit pas. Et parfois, on appelle des crimes de guerre commis par la coalition internationale comme des bavures. Ce fut le cas à Manbij, au nord de la Syrie, il y a quelques jours. Les Syriens évoquent 200 morts. Certains rapports parlent de 100, d'autres de 120, de 80, c'est-à-dire la vie des gens et les détails ne comptent plus. Par bombardement aérien américain ou de la coalition internationale qui combat le terrorisme. Et cela, c'est pour Daesh aussi un argument de victimisation, de voir qu'il y a deux poids, deux mesures, de voir qu'il y a des crimes qui sont commis par des régimes qui parfois, si on doit normaliser avec eux, on ferme les yeux. Et si Daesh commet des crimes, et Daesh commet des crimes régulièrement d'une manière barbare, c'est la solution sécuritaire. Donc il y a un véritable problème politique à régler, que ce soit en Irak ou en Syrie, et malheureusement on est loin de là pour le moment.
On va continuer à creuser cette question. Un mot encore sur ce qui s'est passé à Kaboul hier. L'État islamique qui frappe l'Afghanistan, c'est inédit, non, Lola Walrachine?
Pas vraiment. Si on considère que l'État islamique, ce qu'on appelle aujourd'hui, la réalité que recouvre la dénomination État islamique est multiple et diverse, et il y a beaucoup de groupuscules armés, des franchisés. Donc, mais ce qui est important, c'est que ce sont les victimes. Les victimes sont chiites. Et là encore, c'est quelque chose qui est typique de la stratégie de l'État islamique, qui est d'alimenter en fait les tensions interconfessionnelles, d'utiliser le ressort de la guerre de religion entre sunnites et chiites pour élargir sa base de soutien, pour radicaliser les populations et les faire basculer dans une logique d'escalade. Dans une logique qui annihile toute possibilité de coexistence entre groupes, entre communautés.
Ziad Majed.
Juste pour ajouter deux détails peut-être, il y a aussi l'aspect de la concurrence entre Daesh et Al-Qaïda, puisque les talibans sont les alliés d'Al-Qaïda, et Daesh veut se montrer maintenant un acteur important en Afghanistan, donc il commence à frapper. Je pense que c'est la deuxième grande opération revendiquée par Daesh. La deuxième, c'est que les Hazaras chiites afghans sont doublement victimes en fait de leur situation en Afghanistan. D'un côté, ils sont les victimes des talibans et maintenant de l'État islamique, mais en plus, ils sont les victimes un peu des services iraniens qui les recrutent et qui les envoient se battre en Irak, en Syrie, contre l'opposition syrienne, en leur promettant, quand ils sont réfugiés en Iran par exemple, des titres de séjour à leur famille. Parfois, ils sont prisonniers, ils sont libérés et envoyés là-bas. Donc, ils sont une minorité victime de leur géostratégie dans un sens, et de ces tensions sunnites-chiites qui, malheureusement, sont alimentées de part et d'autre dans les conflits que connaissent les sociétés de la région.
Xavier Martinet.
Oui, juste une question, Ziad Majed, pour bien comprendre la signification sur le plan stratégique de ces attentats. Donc effectivement, on voit ceux qui réussissent en Irak, à Kaboul. Il y en a qui ont manqué aussi, je crois, à la frontière avec le Liban, à la frontière avec la Jordanie également. Est-ce qu'on pourrait dire que, justement, eu égard à ces difficultés de terrain militaire, Daesh aujourd'hui est en phase de recrutement? C'est à ça que servent ces attentats?
Oui, je pense qu'ils commencent à penser à l'après des pertes territoriales. S'ils n'arrivent plus à contrôler les grandes surfaces qu'ils contrôlent aujourd'hui, ils vont de nouveau se transformer en nébuleuses, en acteurs de réseau, agir dans plusieurs pays en même temps pour montrer qu'ils sont un phénomène qui reste mondialisé et important. Et ça les aide aussi à recruter, notamment dans les pays où il y a un sentiment chez une grande partie des communautés sunnites qu'ils sont victimes des politiques internationales, qu'ils sont souvent seuls indiqués comme étant extrémistes. On ne voit pas l'international chiite que l'Iran est en train de construire d'envoyer des combattants en Syrie, en Irak. Ils sont présents dans une grande partie des pays de la région aujourd'hui. Et donc Daesh joue sur plusieurs causes et sur plusieurs victimisations, parfois sur des légitimités politiques, afin de monter sa machine de guerre qui peut rester efficace pendant quelques temps.
Alors on l'a dit, les États-Unis et leurs alliés ont décidé cette semaine d'intensifier la lutte contre Daesh, qui passera effectivement par l'intensification de frappes mais aériennes, mais aussi de troupes au sol. La reprise de Mossoul, de Raqqa, d'ici la fin de l'année, le Lowal Rachid, ça vous paraît un objectif atteignable?
Alors, Autant c'est facile de reprendre une ville comme Fallujah parce qu'elle est à quelques cinquantaines de kilomètres de Bagdad et elle était quasiment vidée de la moitié de sa population au moment où l'offensive a été lancée. Autant la ville de Mossoul, avec pratiquement 2 millions d'habitants, représente un immense défi à la fois militaire et surtout, je dirais, humanitaire. Que faire de cette population qui, dès le déclenchement de l'offensive, on le sait, puisque c'est comme ça que cela se passe dans les autres villes sunnites reprises à Daesh, les habitants vont fuir de façon chaotique, de façon désordonnée, et ils vont être la victime non seulement des bombardements aériens, mais aussi la victime au sol de la confusion des troupes qui se battent contre l'État islamique et qui se battent entre elles pour, en fait, préempter le maximum de territoire. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. La coalition bombarde, mais au sol, vous avez une constellation de groupes armés qui, sous couvert de vouloir défaire et éradiquer l'État islamique, sont en fait obnubilés par des objectifs qui n'ont rien à voir avec la guerre contre le terrorisme, mais qui ont à voir avec le contrôle, la préemption du territoire, des ressources. Donc, évidemment, tout le monde cherche à préempter les territoires qui ont une valeur stratégique, les barrages, par exemple, les raffineries, les installations militaires. C'est de cela que la population civile est victime. Plus le fait que le gouvernement à Bagdad n'a absolument ni les ressources, ni la volonté politique de prendre en charge sérieusement le drame et la tragédie de cette population, qui va encore une fois s'entasser dans des camps de réfugiés extrêmement précaires, en plein milieu du désert, avec des températures avoisinant les 50 degrés. Donc, je pense qu'il faut prendre en compte cette dimension, cette catastrophe humanitaire. Les agences des Nations Unies, le programme des Nations Unies en Irak commence à tirer la sonnette d'alarme et à mettre en garde contre cette catastrophe. Mais je crois que malheureusement, nous sommes aussi bien en Syrie qu'en Irak dans un conflit totalement déshumanisé. Personne ne se préoccupe du sort des populations civiles. Les villes il y a des villes en Syrie et en Irak qui ont été assiégées pendant plus de 2 ans, qui ont été affamées, qui sont soumises à des bombardements en continu, quotidiennement, à tel point que les populations civiles ne savent plus qui les bombarde, ne savent pas s'il s'agit d'une bombe russe, s'il s'agit d'une bombe de la coalition occidentale ou s'il s'agit du gouvernement de Bagdad ou de Damas. Donc c'est cette situation qui est extrêmement tragique. Le CICR n'arrête pas de dire que c'est la première fois dans l'histoire du CICR et des conflits contemporains que la situation est aussi peu, que la situation humanitaire intéresse aussi peu la communauté internationale. Ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas accès aux populations en détresse et personne ne semble se soucier, l'objectif ultime étant de défaire l'État islamique. Mais je me demande même si les uns et les autres savent quel contenu donner à la défaite, quels sont les critères de mesure de cette défaite. Comment peut-on être sûr? Est-ce la perte des sanctuaires territoriaux? Est-ce la fin des attentats un peu partout dans le monde? Et on le sait, il n'y aura pas de solution sécuritaire, mais nous sommes sous l'emprise d'un gouvernement de la peur dans les sociétés occidentales, et le fait de bombarder constitue et est présenté à l'opinion publique comme une réponse adéquate.
Ziad Majed, vous avez évoqué tout à l'heure la bavure qui est arrivée cette semaine dans la ville de Manbij par l'aviation de la coalition internationale. La coalition nationale syrienne, donc l'opposition, a demandé quelques jours après la suspension des frappes aériennes. On voit donc bien toute la limite de ces frappes, mais si on ne fait pas de frappes, comment concrètement est-ce qu'on combat, comment est-ce qu'on fait reculer Daesh sur le terrain ?
Vous savez, durant les bombardements américains contre Daesh, Daesh a pris la ville de Palmyre en Syrie, par exemple, en traversant le désert, arrivant de Derzour vers Palmyre, des dizaines de kilomètres. Il n'y a pas une solution militaire seulement. On doit combattre l'État islamique, mais c'est pas de la manière que les Occidentaux sont en train de le faire. Ils ne sont pas concernés par les causes des populations locales. Ils sont pas concernés par les causes des sociétés locales. Ils sont juste en train de bombarder des régions que contrôle l'État islamique. Dans ces régions-là, il y a des populations qui subissent toutes sortes de répression, que ce soit par les milices de l'État islamique, par les bombardements de la coalition, par les bombardements de Bachar al-Assad dans le cas syrien. maintenant, sans aucune perspective. En plus, ils ne peuvent même plus quitter les territoires là où ils sont. Ce qui fait que la colère monte chez eux contre tout ce qui tombe du ciel sur eux, de toutes les coalitions existantes. Et pour pouvoir combattre l'État islamique, dans le cas syrien du moins, il faut commencer par une solution politique. Cette solution-là, peut-être doit construire un nouveau consensus politique syrien contre l'État islamique. Mais ce consensus politique-là ne peut ne pas passer par le départ du régime en place. C'est la violence de ce régime-là qui est de loin supérieure à celle de Daesh par rapport à la Syrie même, qui alimente des frustrations et qui sert à Daesh et à des autres groupes qui continuent à se battre en Syrie. Donc il faut tourner la page d'un gouvernement qui existe depuis 1970, qui est responsable de la catastrophe syrienne aujourd'hui, afin de pouvoir permettre aux Syriens eux-mêmes de reconstruire leur consensus politique et de faire face à Daesh. Sinon, si c'est juste un bombardement et si Raqqa tombe sous les mains des milices kurdes, par exemple, qui sont présentes sur le terrain, ça ne va pas résoudre le problème parce que ça va créer des tensions arabes-kurdes. Daesh peut reprendre des attentats et des kamikazes, les envoyer. On bombarde de nouveau et après. C'est-à-dire, on ne voit pas une fin à tout cela.
Alors, justement, Ziad Majed, ce matin, on a appris que le gouvernement syrien s'est dit prêt à entamer de nouveau pourparlers de paix avec l'opposition et résolu à chercher une solution politique au conflit. Comment est-ce qu'on interprète ces déclarations alors que sur le terrain, oui, l'armée de Bachar al-Assad récemment avait repris du terrain, encercle Alep, on va en parler depuis quelques jours. Comment est-ce qu'on interprète vraiment cette demande d'ouverture six ans après le début du conflit? Oui.
C'est du marketing politique. Ils savent maintenant qu'il y a des pourparlers entre Kerry et Lavrov, entre les Américains et les Russes. Les Américains prétendent avoir offert aux Russes une solution, c'est-à-dire un cessez-le-feu par rapport à l'opposition syrienne, qu'on cesse de la bombarder, et que les Américains et les Russes coopèrent contre l'État islamique et contre Al-Nusra. Al-Nusra qui aujourd'hui même est réuni pour étudier sa relation avec Al-Qaïda, s'il se distance ou pas, pour peut-être éviter le pire plus tard. Donc, le gouvernement syrien souhaite se montrer ouvert maintenant à toutes sortes de compromis politiques, sauf que, depuis Genève 1, le même gouvernement refuse toujours toutes sortes de négociations, parce que c'est quoi les négociations? Ils veulent traiter tous les autres opposants de terroristes, ils ne veulent pas entendre parler du sort de Bachar al-Assad, ils ne veulent pas parler d'un gouvernement de transition, comme le stipule Genève 1, ils veulent parler d'un gouvernement de coalition nationale ou d'union nationale, c'est-à-dire on a quelques opposants dans un gouvernement qui reste sous la direction de Bachar al-Assad. Les services de renseignement et ce qui reste de l'armée sont toujours sous contrôle de Bachar al-Assad. Donc ce n'est pas une solution politique, c'est une victoire contre l'opposition. En plus, maintenant avec l'aviation russe qui reprend les bombardements d'une manière extrêmement violente, avec la présence de plus en plus d'Iraniens, avec la présence de combattants chez Libanais, Irakiens et Hazara afghans, ils sont en train de progresser sur quelques fronts. Donc ils veulent aussi dire qu'à ce moment-là, le rapport de force change. Il n'y a plus de raison pour demander le départ de Bachar al-Assad.
Donc une ouverture hypocrite, si je résume.
Absolument, absolument. Au moment où ils sont en train de massacrer la population civile d'Alep.
Alors, d'ailleurs, on l'a appris ce matin, 4 hôpitaux à Alep ont été touchés par des bombardements aériens dans la partie est de la ville, la partie qui est assiégée. Et justement, sur ce problème récurrent des hôpitaux qui sont victimes de frappes aériennes, je vous propose d'écouter Massimiliano Rebodengo. Il est le chef de la mission Syrie de Médecins sans frontières et nous lui avons demandé si les hôpitaux étaient parfois pris pour cible intentionnellement.
Ça arrive, c'est arrivé dans le passé, c'est arrivé maintenant, c'est arrivé dans le futur, on imagine. C'est une stratégie qui a été utilisée depuis des années. On appelle double tap quand on a une structure qui est touchée une fois et après une demi-heure, quand les gens se regroupent autour de la structure et aussi la civil defense, qui est la protection civile syrienne, se regroupe et les touche une deuxième fois, là, l'analyse dit, en fait, c'est une frappe qui est ciblée. Et c'est une tactique qui est utilisée. Pas toutes les structures ont été objets de ce type de frappe, mais la majorité, oui, malheureusement.
Et ciblée par qui, on le sait?
Ça dépend de la zone où ça arrive. Normalement, il y a soit la coalition syrienne qui est donc la coalition des forces gouvernementales qui peut frapper, mais il y a aussi des bavures et des frappes sur les civils des autres parties qui sont inclus dans le conflit. Donc c'est compliqué à définir. Le point, ce n'est pas qui, forcément, c'est vraiment que les structures médicales et la population civile ne devraient pas être frappées par ça. Après, ça, c'est le point sur lequel on veut renforcer le message.
Donc Massimiliano Rebodengo, le chef de la mission Syrie de Médecins Sans Frontières, il était joint au téléphone jeudi alors qu'il se trouvait à Gaziantep, en Turquie. Des déclarations qui font écho à ce que vous disiez tout à l'heure, le Loua Al-Rachid, une guerre, que ce soit en Irak ou en Syrie, qui ne respecte absolument plus rien par rapport à la vie des civils.
Absolument, absolument, au mépris total de la vie de la vie des civils. On appelle ça une bavure. On annonce une enquête et puis l'affaire est oubliée. Je constate que ce genre de cette déshumanisation du conflit se produit dans un contexte où effectivement, par exemple, le rapport Chilcot en Angleterre a abouti à des conclusions accablantes.
Le rapport sur la guerre d'Irak,
sur la guerre d'Irak, absolument, sur la décision du gouvernement de Tony Blair au mépris de toute l'égalité internationale, puisque je rappelle l'invasion de l'Irak en 2003 n'avait absolument pas été entérinée par une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais là encore, cette déshumanisation va jusqu'au point où Tony Blair, en toute bonne conscience, dit qu'il n'a absolument aucun remords, aucune excuse à faire sur ce qui s'est passé. Là encore, le drame de l'Irak est que l'État existant a été détruit non pas par un soulèvement, c'est contrairement à la Syrie, il n'y a pas eu en Irak de soulèvement de l'intérieur contre le régime. Les Irakiens l'avaient déjà essayé en 1990-91 et ils savaient très bien à quoi s'en tenir, c'est-à-dire à l'indifférence totale de la coalition qui avait à l'époque libéré le Koweït et qui n'avait absolument pas répondu aux appels des rebelles qui ont bien failli entraîner la chute du régime de Saddam en 91. Donc les Irakiens savent à quel point une intervention étrangère, quand bien même elle serait motivée par de bonnes intentions, c'est-à-dire renverser un tyran, a des conséquences désastreuses pour la population civile. Vous démantelez un État, vous détruisez son infrastructure, vous disséminez la violence au sein de la population civile, vous armez des groupes et des milices sous couvert de défaire le terrorisme et vous entraînez une situation absolument chaotique, totalement ingérable. Si les États-Unis n'ont pas réussi avec presque plus de 170 000 soldats en Irak à pacifier le pays, je doute fort que quiconque puisse le faire en Syrie. Ce sont des sociétés en guerre, ce sont des sociétés qui souffrent de pathologies sociales, économiques et politiques, et surtout qui sont soumises à des degrés de violence extrêmes qui ne peuvent pas être résolus par davantage de violence, davantage d'armes, davantage de bombardements.
Et qui s'accumulent au fil des années, bien évidemment, Xavier Martinet.
Oui, et de ce point de vue-là, Loua Al-Rachid, est-ce que depuis deux ans maintenant d'apparition visible de Daesh en Syrie-Irak, est-ce que selon vous, on pourrait dire que ce qui a été appelé le piège Daesh, finalement, a fonctionné, puisqu'on voit des Occidentaux qui sont prisonniers d'une situation tactique qui finalement les dépasse. Certes, ils bombardent, mais en bombardant, ils affichent une indifférence, vous l'avez dit encore une fois, aux vies humaines, etc. Donc ils en sortent avec une image ternie, quels que soient les résultats sur le terrain, finalement.
Absolument. L'internationalisation du phénomène Daesh a eu des conséquences désastreuses, puisque à la base, ce qui permet d'occulter les raisons véritables qui ont permis à Daesh d'émerger, qui ont permis à Daesh, à partir de l'été, à partir de 2013-2014, de contrôler autant de territoires levantins. On occulte en internationalisation la question de la lutte contre Daesh, en internationalisation l'effort de guerre contre Daesh, on occulte de façon extrêmement commode les raisons pour lesquelles Daesh a émergé et on occulte nos propres collusions avec les régimes qui ont permis à Daesh de s'imposer comme une alternative à des populations désespérées parce qu'elles sont soumises à une violence d'une extrême brutalité de la part des pouvoirs centraux et parce qu'elles sont négligées, parce qu'elles sont laissées à l'abandon, parce qu'elles sont obligées de trouver en elles-mêmes et par leurs propres moyens les ressources de survie. Ce sont des marges, ce sont les marges de ces sociétés levantines qui se soulèvent et qui ont vu en Daesh l'espace d'un temps une solution, une alternative à leur tragédie.
Ziane Majed.
Oui, moi ce qui m'inquiète dans tout cela et qui va peut-être au-delà de la Syrie et de l'Irak, c'est qu'on est en train d'expulser toute cette région du droit international. Le droit international, les conventions de Genève, ne les concernent pas. S'il y a nécessité de normaliser avec quelqu'un qui a tué 500 000 de personnes ou 200 000 personnes, on le fait. Un des diplomates occidentaux, une fois, m'avait dit en métaphore qu'on nous enseigne qu'on peut saluer quelqu'un et puis se laver les mains. Je lui ai dit, mais on se lave les mains du sang des gens qui sont morts là-bas. Oui, mais ça, c'est la réelle politique. Donc, on est en train d'expulser les Syriens, les Irakiens,
quand
du droit international.
Quand vous dites 11, Ziane Majed, qui est-ce que ça concerne exactement
parce que... Je parle de la communauté internationale, des occidentaux spécifiquement, des gouvernements occidentaux, c'est-à-dire ceux qui disent aujourd'hui on est prêt à faire l'alliance avec Bachar el-Assad pour faire face à Daesh. Certains même font des comparaisons qui n'ont aucun sens. Hitler, Staline, comme si Daesh et Hitler et Assad et Staline, aucun rapport, aucune comparaison possible. Qu'est-ce que cela veut dire pour les Syriens ? Je comprends que pour les Européens qui voient la chose de loin, oui, Assad ne nous a pas attaqués, c'est Daesh qui nous a attaqués. Mais pour les Syriens, ils vivent sous une dictature depuis 1970. Ils ont connu l'exil, la prison politique, ils ont connu les tortures. Puis, quand ils se sont soulevés en 2011 pour réclamer la liberté, la justice, leurs droits, ils ont été bombardés et massacrés. Et 2 ans après, ou même 3 ans après, l'émergence du phénomène Daesh fait que les gouvernements occidentaux disent « ça va oublier tous ceux qui ont été tués, écrasés, torturés ». On connaît le dossier César et les milliers de prisonniers politiques syriens torturés et tués, assassinés dans les prisons. Oubliez tout ça, parce que celui qui vous a tué, qui est cravaté, qui parle le langage un peu international, va être notre allié pour combattre Daesh, ces barbares barbus qui nous font peur et qui d'ailleurs vous massacrent aussi, parce que Daesh également tue des Syriens et des Irakiens. Donc cette logique-là, les Syriens ne la comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi celui qui les bombarde du ciel, qui vise les hôpitaux, c'était une politique, une stratégie dès le début, pour faire un commentaire avec ce que le monsieur de Médecins Sans Frontières a dit. Le régime, depuis le début, de 2011, même avant que la révolution syrienne se transforme en conflit armé, a visé les médecins et les infirmiers qui soignaient les manifestants blessés. Puis il y a eu, avec la militarisation du soulèvement et la guerre ouverte maintenant, une destruction systématique des boulangeries et des hôpitaux. Concept de la terre brûlée, c'est-à-dire rendre les zones que l'opposition contrôle des zones où les gens ne peuvent pas vivre. Pourrir la situation.
C'est précisément ce qui se passe à Alep en ce moment.
C'est ce qui se passe à Alep, c'est ce qui s'est passé dans d'autres régions, et c'est là qui a contribué aussi à l'émergence de Daesh. Et Daesh profite aussi du fait que l'opposition n'a pas pu gérer les zones qu'elle a contrôlées, vu les bombardements intensifs et les massacres qui ont eu lieu. Donc Daesh émerge comme une alternative avec des moyens, une discipline, et qui impose parfois sa loi dans ces régions-là. Et le régime avait épargné Daesh pendant plus d'un an.
On parle même de libération d'anciens prisonniers hein, islamistes, oui, des prisons syriennes.
Des geôles du régime qu'il utilisait d'ailleurs pour les envoyer en Irak. Donc il y a une mauvaise gestion au niveau de la communauté internationale, des Nations Unies, de ce qui se passe en Syrie, que ce soit au niveau du massacre chimique qui a eu lieu, les crimes de guerre qui sont commis régulièrement. Et maintenant, c'est une ville, la deuxième ville du pays, une des villes les plus anciennes de l'humanité, qui est assiégée, qui est bombardée, qui est massacrée. Et on n'entend rien sur cela.
La reprise d'Alep par Bachar al-Assad, qui n'est pas encore actée, hein, puisque des combats ont lieu, et elle est simplement, entre guillemets, elle est pour l'instant assiégée, encerclée. Cette reprise, ça serait un tournant dans le rapport de force entre Bachar al-Assad et l'opposition modérée démocrate. Je ne sais pas exactement quel est le bon terme, on voit toujours modéré, mais ce serait un tournant, la reprise d'Alep.
Il y a toujours des métamorphoses quand il y a des milices. On passe du terme modéré au terme extrémiste, on peut basculer rapidement. Et en plus, il faut le problème de terminologie là, c'est modéré par rapport à qui, extrémiste par rapport à qui, leur société ou bien l'Occident. Si Bachar al-Assad arrive à reprendre Alep avec l'aide de ses alliés russes, iraniens, libanais, irakiens, Hazara, etc., ça serait certainement une grande victoire militaire comme symbolique. Mais on n'est pas encore là. C'est maintenant l'encerclement, l'étouffement de la ville qui se fait. Et ça, c'est au niveau humanitaire une catastrophe. Beaucoup de localités, de villes, de régions sont assiégées en Syrie et affamées depuis plusieurs années maintenant. Toute la route de Damas et ce qui reste du camp de Yarmouk, les zones à l'ouest de Damas également et au sud. Il y a au nord plusieurs régions et il y a Alep maintenant qui s'annonce une nouvelle tragédie humanitaire.
Une dernière question, Xavier Martinet.
Oui, très rapidement, Ziad Majed. Est-ce que justement, au vu de cette situation donc sur le terrain très dramatique et au point où en sont les forces de Bachar el-Assad, est-ce que ce serait le moment pour la communauté internationale de prendre une position claire contre Bachar el-Assad et qu'est-ce que ça changerait, qu'est-ce que ça amènerait?
Oui, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que personne n'a l'illusion qu'il y aura une solution en Syrie demain et que le départ de Bachar el-Assad ne va pas automatiquement mener à une résolution de ce conflit. Comme l'avait dit Louloua, ce sont des sociétés en guerre civile maintenant pour différentes raisons. Mais pour commencer et pour pouvoir imposer un processus politique afin que les Syriens puissent continuer après, il faut finir avec un régime qui est là depuis 1970 et comme beaucoup d'autres régimes arabes est à l'origine des déchirements de ces sociétés-là, des déchirures qu'il y a et de tous les problèmes pour pouvoir combattre Daesh, pour pouvoir penser à un nouveau système politique, pour peut-être avoir une réconciliation. Et il faut que le droit international fonctionne. Il faut que tous ceux qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Syrie comme en Irak, comme au Yémen, comme en Libye, comme partout, soient à Nuremberg et à La Haye et non pas dans des conférences et non pas dans des capitales occidentales après reçues comme étant des partenaires dans la lutte contre le terrorisme.
La reconstruction politique, sociale, économique évidemment des États, que ce soit en Irak ou en Syrie, ce sera évidemment la seule voie d'avenir, la seule solution pour la résolution de ces conflits. Merci infiniment à vous deux, Ziad Majed, politologue, professeur des études de Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Je rappelle votre ouvrage « Syrie, la révolution orpheline, Actes Sud 2014 ». Et merci beaucoup à vous, Louloua Al-Rachid, chercheuse associée aux séries à Sciences Po. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie d'Une semaine dans le monde.
God save the Queen. Fascist regime, it made you a moron, a potential age bomb. God save the Queen, she ain't a human being. There is no future in England's dreaming. Don't be told what you want. Don't be told what you need. There is no future, there is no future, there is no future for you. God save the Queen. We mean it, man. We love our Queen. God save the Queen. Tourists are money and a figurehead is not what she seems. When there's no future, how can there be seen? Where the flowers in the dust bin, where the poison in your human machine, where the future, your future. God save history. Save your mate parade. Oh Lord God, have mercy, 'cause all crimes are paid. No future. No, no, no future. No, no future.
God Save the Queen, une reprise des Sex Pistols par le groupe français Nouvelle Vague. Alors, moins d'une semaine après sa nomination, Theresa May, la nouvelle première ministre du Royaume-Uni, était en déplacement à Berlin ce mercredi, puis à Paris le lendemain. On le sait, les premières visites officielles d'un chef de gouvernement sont rarement choisies au hasard. Et ce n'est pas un secret, la priorité du gouvernement britannique sera de négocier avec ses anciens partenaires sa sortie de l'Union. On a d'ailleurs vu les premières tractations cette semaine pour obtenir un délai avant d'activer le fameux article 50. Un chantier immense, autant qu'inédit, mais il ne sera pas le seul, car c'est toute sa politique étrangère que le Royaume-Uni va devoir reconstruire dans les mois et les années à venir. En premier lieu, défendre ses intérêts dans un monde où le grand frère américain ne domine plus la planète. Les Britanniques pourront-ils compter sur leur sphère d'influence historique, celle des anciennes colonies, désormais seules, puissance moyenne voire déclinante, comment négocier avec la Chine ou la Russie, à moins que le pays ne choisisse de se retirer quelque peu de la scène internationale. Alors après le Brexit, quel avenir pour l'influence britannique dans le monde? C'est une semaine dans le monde et on continue jusqu'à 14h avec nous pour discuter de ces questions. Mélanie Torrent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au téléphone avec nous depuis Londres. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris Diderot, spécialiste de la politique étrangère britannique et de l'histoire du Commonwealth. Et nous sommes également avec Vivien Pertuiseau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales à Bruxelles, et vous êtes justement en duplex de Bruxelles. Mais tout de suite, c'est le portrait de la semaine, Xavier Martinet, et c'est la nouvelle première ministre britannique, bien sûr, que vous nous présentez, Theresa May.
Et oui, et Brexit means Brexit. Le Brexit, ça veut dire le Brexit. C'est dans ce genre de déclaration prononcée lundi aux communes qu'on peut lire l'habileté politique de Theresa May. Derrière sa fermeté apparente, la formule reste en effet assez vague pour permettre toutes les souplesses dans les négociations et dans la date du Brexit effectif. Alors fermeté, habileté, ce sont en effet les deux principaux traits de celle qu'une partie de la presse française s'est empressée de reconnaître comme une nouvelle dame de fer, sorte de réincarnation de Margaret Thatcher. Et il est vrai que leur parcours présente des points communs, origine modeste, hors du milieu londonien, nécessité de travailler jeune, une grande capacité de travail, Theresa May ne dort que 5 à 6 heures par nuit, leur accession à Oxford, leurs convictions religieuses affirmées et le fait qu'elles ont toutes les deux diriger le parti conservateur avant d'accéder au premier poste exécutif du royaume. Elles ont aussi dû entreprendre des réformes controversées, économiques pour Thatcher, judiciaires pour Theresa May. Mais peut-être ne faut-il pas tirer trop loin les fils de la comparaison. D'abord, Theresa May est d'une autre époque, née le 1er octobre 1956, un mois avant la crise de Suez, qui a sorti, on pourrait dire, la Grande-Bretagne du jeu égyptien. C'était donc la fin déchirante de l'Empire et peut-être était-elle prédestinée puisque désormais, elle devra gérer la séparation d'avec le vieux continent. Et si Theresa May est qualifiée de sérieuse, voire d'austère en France, eh bien la presse britannique a remarqué son exubérance vestimentaire, notamment son goût prononcé pour les escarpins à petits talons, les Kitten Heels, ou son tailleur en tartan écossais, bien sûr. Theresa May ne cache pas non plus son intérêt pour la cuisine, elle qui avait commencé à travailler en pâtisserie et qui a demandé à habiter au 11 du Downing Street et non au 10 à cause de la grande cuisine rénovée par David Cameron. C'est ce qui fait aussi qu'on lui trouvait un point commun avec Angela Merkel, la cuisine. Alors exubérante, Theresa May, mais aussi remarquablement constante, ex-chef du Home Office, c'est la plus durable des ministres de l'Intérieur, dit un journal anglais, alors qu'un de ses proches à l'époque de sa nomination ne lui donnait pas 2 ans à ce poste. Sur le plan politique, d'ailleurs, Theresa May a été perçue comme la femme capable de maintenir l'unité des conservateurs divisés après le Brexit. Elle l'a montré dans la formation de son gouvernement et c'est elle aussi qui avait voulu, à l'époque, rompre avec l'image de Nasty Party, le parti méchant accolé au conservateur après la période Thatcher. De ce point de vue-là, elle cultive une image de flegme et de flexibilité, note un journaliste de la BBC. Et en 6 ans, elle a effectivement été au cœur d'affaires importantes pour le Royaume-Uni, de l'enquête diplomatiquement délicate dans l'assassinat d'Alexandre Litvinenko, en passant par la gestion des scandales à répétition de pédophilie jusqu'à la grande entreprise de déchéance de nationalité et des nouvelles lois antiterroristes pour mettre fin au Londonistan après les attentats de 2005. Une fermeté certes, mais tout en nuances, dureté affichée par exemple quand elle déclarait en 2006 que la nationalité est un privilège, pas un droit. Theresa May est aussi une femme proche du quotidien des Britanniques, on pourrait dire, puisque c'est elle qui, après d'autres scandales, a fait passer en 2014 une loi pour prévenir l'esclavage moderne dans le travail à domicile, se rappelant peut-être que ses deux grands-mères avaient été employées de maison. Fiabilité et flegme, mais aussi chaleur et simplicité, c'est peut-être ce qui distingue le plus Theresa May de Margaret Thatcher ou d'autres premiers ministres. On l'entend ainsi beaucoup rire quand elle participe à l'émission de la BBC 4 Desert Island, elle qui écoute Dancing Queen d'ABBA, Walk Like Man de Frankie Valli and the Four Seasons, même si elle répète « Aucune femme ne devrait marcher comme un homme ». Une ironie finalement qui complète assez bien une ambition affirmée, elle qui s'est toujours défendue de vouloir prendre la première place, mais qui a toujours agi comme si elle s'y préparait. On dit que l'histoire se répète, une fois tragique, une fois comique, mais Theresa May ne sera sans doute pas une réapparition comique de Margaret Thatcher dans des temps où le parti est incertain, elle est même « the ultimate political survivor », dit la BBC. Elle devra survivre au mieux à la séparation d'avec l'Europe, voulue par les électeurs, mais pas par elle, de la même manière que Thomas Cromwell avait dû gérer le schisme d'Henri VIII avec le pape. Espérons qu'elle ne subisse pas le même sort.
Une semaine dans le monde, Mélanie Chalandon.
Et donc Theresa May qui était cette semaine en France et en Allemagne pour commencer à négocier en premier lieu un délai pour mettre en place le Brexit. Et on sait d'ailleurs que Berlin et Paris sont en désaccord sur le fait d'accorder ou pas ce délai. Vivien Pertuso, est-ce que la Grande-Bretagne a déjà commencé par jouer sur les divisions des Européens ?
On peut le penser comme ça, mais je pense pas. Je pense que c'est juste en réalité une situation qui est assez problématique pour beaucoup de pays européens, effectivement, d'avoir cette incertitude qui plane, c'est-à-dire d'avoir le Royaume-Uni qui ne déclare pas encore, qui n'invoque pas encore ce fameux article 50 pour entamer les négociations de sortie. Mais je pense pas qu'elle joue sur les divisions. À mon avis, elle est plus dans une tournée de réassurance que les Britanniques souhaitent rester le plus proche possible des Européens. Ça, c'est un premier objectif. Le deuxième, c'est que les Britanniques ne vont pas complètement s'isoler et rentrer dans une posture de défiance vis-à-vis des autres Européens. Donc, à mon avis, c'est plus pour rassurer ses homologues européens que le Royaume-Uni sera un partenaire viable sur lequel on peut compter, plutôt que de jouer sur les divisions.
Mais néanmoins, la Première ministre s'adresse donc aux États-nations, la France, l'Allemagne. Elle aurait pu aussi faire un premier déplacement à Bruxelles.
Elle aurait pu, mais il n'y avait pas de... Après, on peut voir ça de différentes manières. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément non plus de grands rendez-vous qui pouvaient l'amener à Bruxelles. Et c'est vrai qu'elle a préféré, elle a privilégié effectivement Berlin et Paris plutôt que Bruxelles. Peut-être pour des raisons de calendrier aussi. Hein, il peut y avoir des raisons toutes simples. Après, c'est vrai que il est important parce que beaucoup porte sur le Conseil européen, donc sur les chefs d'État et de gouvernement. Donc il est important pour elle d'avoir au moins un appui de la part des grands pays, ou du moins s'assurer qu'ils ne vont pas être des partenaires trop difficiles dans les négociations.
Mélanie Torrent, évidemment, on le sait, le plus grand chantier pour la diplomatie britannique va être de redéfinir ses relations avec l'Union européenne. Dans ce rapport de force, à votre avis, est-ce qui est aujourd'hui en position dominante, les Britanniques ou les Européens ?
Écoutez, le jeu d'équilibre dans ces négociations est assez assez complexe. Tout est en train finalement d'être discuté, puisque dans la période finalement avant le référendum, les considérations très pratiques sur un éventuel Brexit ont été très peu abordées. Et sur cet équilibre, je pense, entre intérêt britannique et intérêt européen, gestion des relations avec les Européens, il y a une dimension supplémentaire pour la Grande-Bretagne, qui est que dans ses relations avec le Commonwealth, dont vous parliez tout à l'heure, restent au sein de l'Union européenne deux membres du Commonwealth, donc Malte et Chypre, qui vont également donner à la Grande-Bretagne, je pense, le souci de ménager de bonnes relations avec l'ensemble des partenaires européens, et donc effectivement des négociations pragmatiques plus que de la défiance ou des prises de position intempestives risquées.
On va revenir dans un instant sur cette importance du Commonwealth. Cette semaine, la Commission des affaires étrangères du Parlement britannique a accusé David Cameron de négligence grave, c'est-à-dire en gros de n'avoir préparé aucun plan d'action après en cas de Brexit. Est-ce que vous partagez ce sentiment de négligence, d'amateurisme ?
il y a des... Je pense que dans les discussions qui ont eu lieu dans la presse britannique et plus généralement dans les médias britanniques, finalement, les projets très concrets ont été un petit peu écartés. Et on l'a vu, en fait, tout récemment, ce matin, quand des discussions ont eu lieu sur une possible renégociation à 7 ans de la liberté de mouvement, de circulation des personnes en échange d'un accès au libre-échange que Boris Johnson aurait relativement bien accueilli et qui revient en fait sur une partie des négociations qui avaient été faites par David Cameron, mais peut-être effectivement pas réellement explicité pour l'électorat britannique. Et on a bien senti quelque chose que plusieurs commentateurs ont déjà mis en avant, à savoir que c'est un référendum qui s'est aussi beaucoup joué sur les intérêts du Parti conservateur et les relations internes au Parti conservateur, sur des questions aussi purement de politique intérieure et pas nécessairement des grandes questions de politique étrangère qui vont maintenant en fait se démarquer.
Et des questions qui vont tout de même s'imposer, hein, puisque le Brexit a été acté. Vivien Pertuso, l'enjeu là maintenant pour le Royaume-Uni, c'est quoi, de garder un accès commun, un accès au marché commun, et donc de continuer aussi par la bande à peser sur les décisions de l'Union européenne sans en être membre.
Ça, c'est le scénario un peu idéal. En fait, il y a plusieurs possibilités.
C'est l'objectif, on va dire.
C'est l'objectif pour le moment qui est le plus évident et le plus simple à formuler. Je m'explique. C'est-à-dire que effectivement, dans la campagne pour le référendum, on s'est retrouvé dans une situation où les partisans de la sortie avaient tous des discours assez différents sur le post Brexit. Est-ce que le Royaume-Uni devrait maintenir un accès au marché intérieur ou pas? Est-ce que finalement la meilleure solution ce serait pas de devenir une sorte de Singapour international? Donc où la taxation serait très faible et ça pourrait être un hub international pour les investisseurs étrangers, etc. D'autres ont pensé à d'autres modèles qui peuvent déjà exister, comme la Norvège ou comme la Suisse. Mais c'est vrai qu'aucun modèle n'est aussi bien et aussi avantageux que la situation actuelle. Donc on se retrouve dans une situation après le référendum qui est assez compliquée parce que les partisans d'un maintien au sein du marché intérieur sont présents au sein du gouvernement. Theresa May en est une. Et après, les partisans d'un commerce du Royaume-Uni comme une plateforme internationale du commerce international sont également présentes. Et là, on peut penser à Liam Fox, qui est donc le nouveau ministre pour le commerce international. Et ensuite, il faudra, et Theresa May l'a déjà explicité à plusieurs reprises, que le Royaume-Uni et les différentes parties du Royaume-Uni formulent une position de négociation, un mandat de négociation, et là on pourra avoir une idée un peu plus précise de ce que les Britanniques souhaitent. Mais c'est vrai qu'a priori la solution idéale serait pour les Britanniques de maintenir l'appartenance du Royaume-Uni au marché intérieur, et ensuite il faudra voir comment les Britanniques peuvent rester ou non associés aux accords de libre-échange que l'Union européenne a déjà signés, parce que si c'est pas le cas, il faudra en signer d'autres.
Xavier Martinet.
Oui, Vivien Pertuso, on comprend à ce que vous dites qu'un des grands enjeux pour le Royaume-Uni, ça va être de savoir de quoi exactement se dégager du côté des institutions européennes. Du côté justement de l'Europe, notamment de la France, il y avait beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce qu'on va devenir si on n'a plus le soutien militaire, notamment du Royaume-Uni pour la défense européenne. Mais c'est vrai qu'on a du mal à se représenter quelle est cette part du Royaume-Uni, quel est son apport à la défense européenne, à la PESD. Donc, est-ce que vous en avez une idée?
Là, il y a deux points de vue. Il y a le premier point de vue qui est un petit peu plus idéologique, qui est de considérer que le Royaume-Uni a toujours considéré et considérera, puisque maintenant il sort de l'Union européenne, que l'OTAN est le cœur de sa défense, et donc que l'OTAN est le cœur de la défense européenne. Et toute tentative de développer une politique de défense au sein de l'Union européenne est une aventure un peu hasardeuse qui fait doublon avec ce que fait l'OTAN. Ensuite, il y a une vision un peu plus pragmatique des choses, qui est de dire, eh bien, les Britanniques considèrent effectivement que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne n'est pas nécessaire, mais elle existe. Donc, eh bien, utilisons-la quand elle sert nos intérêts. On l'a vu dans quelques cas de figure. En l'occurrence, ils ont mené au nom de l'Union européenne presque une mission au Sud-Soudan il y a quelques années. La mission qui est en Ukraine aujourd'hui est une mission qui a été entre autres poussée par les Britanniques. Et ensuite, il y a aussi le fait que si on regarde un petit peu les déploiements britanniques au sein des missions de l'Union européenne aujourd'hui, eh bien, les Britanniques sont relativement bien représentés. Du moins plus que ce qu'on pourrait imaginer.
Donc pas de retour au fameux splendid isolement hein, qui a longtemps été le mot d'ordre de la politique étrangère britannique, Mélanie Thorin ?
Absolument, et les discours récents et aussi les discours, disons, depuis le début des années 2000 vont vraiment dans le sens non pas de cette splendid isolation, comme vous disiez, mais bien d'un redéploiement. Et donc vraiment au retrait de l'Union européenne qui a été voté, va maintenant devoir correspondre à un redéploiement des moyens, si ce n'est de la puissance, tout au moins de l'influence britannique.
À ce sujet, justement, je voulais vous faire écouter l'extrait d'une archive, extrait de l'émission Paris vous parle sur la RTF. C'était en 1957.
Ici Jacques Salbert qui vous parle de Londres. C'est évidemment avec le plus grand intérêt que les milieux politiques et économiques britanniques ont suivi les débats du Palais Bourbon sur les marchés communs. Car, comme l'a dit M. Guimollet, la Grande-Bretagne songe sérieusement à franchir le Rubicon, ou plus exactement le Channel, et à rejoindre, sous une forme ou une autre, la communauté européenne. L'opinion anglaise reste assez divisée. Des conservateurs impérialistes de l'école Beaverbrook sont opposés à toute association de la Grande-Bretagne avec l'Europe par principe, car, disent-ils, une telle association, quelle qu'elle soit, ne peut se faire qu'au détriment de la force du Commonwealth. Ces irréductibles restent toujours fidèles à la conception victorienne de l'Empire britannique.
Alors Mélanie Thorin, comptez aujourd'hui sur le Commonwealth, est-ce que cela ne relève pas un petit peu d'une vision très nostalgique hein, des relations internationales, voire une nostalgie pour l'Empire britannique ?
Alors effectivement, je pense que dans la manière dont le Commonwealth va être mobilisé dans les temps qui viennent, il y a ce risque très important qui est finalement de donner l'impression d'une Grande-Bretagne nostalgique de l'Empire qui correspondrait, enfin qui serait dans le prolongement des débats très vifs qu'on a pu entendre sur l'immigration pendant la campagne et des définitions de l'identité britannique, de la britannicité qui serait fondée plus sur un retour finalement aux îles britanniques même que sur une ouverture sur le monde. Et de ce point de vue-là, il faut être effectivement très conscient, ce qui est le cas des diplomates britanniques, que le Commonwealth actuel a été fondé et a été créé autant par les autres membres du Commonwealth que par la Grande-Bretagne elle-même. Il s'est d'ailleurs créé à bien des écarts en opposition à ce que la Grande-Bretagne pouvait proposer, que ce soit sur les résolutions des problèmes de droits de l'homme et de fin d'empire.
Oui, d'ailleurs, peut-être rappeler...
Les questions, voilà, de... Pardon, oui.
Pardon, excusez-moi. Peut-être rappeler le Commonwealth, hein, une organisation d'une cinquantaine un peu plus d'États qui sont liés par des relations historiques, une communauté de valeurs essentiellement, mais aucune coopération politique ni de défense. Et ce que vous êtes en train de nous dire, Mélanie Thorin, c'est que la Grande-Bretagne n'est plus vraiment le leader hein, du Commonwealth.
Non, c'est effectivement, elle joue bien entendu un rôle très important. Il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne finance à peu près 35% le budget de la coopération au sein du Commonwealth. Donc même si en théorie ça ne lui donne pas de droit direct sur les décisions qui sont prises, le Commonwealth effectivement fonctionne à partir partir de fonds britanniques, mais elle n'en est absolument plus maître, si tant est qu'elle en est, qu'elle l'ait jamais été, surtout depuis la création du, de son secrétariat en, en 65. Et je pense que de ce point de vue-là, ce qui sera important d'avoir à l'esprit, c'est deux choses. D'une part, que finalement, le Commonwealth a pu aider le Royaume-Uni dans ses relations avec l'Union européenne, et que l'inverse a été vrai, c'est-à-dire le fait que le Royaume-Uni pouvait porter certaines questions, notamment sur l'aide au développement, notamment sur les petits États au sein de l'Union européenne, était pour le Commonwealth un avantage et une manière de tisser des relations et de continuer de tisser des relations avec Londres. Et d'autre part, je pense qu'un des points très importants, c'est que si l'Union européenne a besoin de réformes, le Commonwealth, c'est aussi une organisation qui a été extrêmement critiquée, qui est toujours l'objet de critiques, y compris par les Britanniques, et qui n'est pas non plus sans devoir être réformée.
Je vous coupe, Mélanie Dorand, juste un mot pour dire qu'effectivement, plusieurs États au sein du Commonwealth, hein, Canada, Australie, Inde, étaient plutôt d'ailleurs défavorables à ce Brexit. Une dernière toute petite question, Vivien Pertuso. Les Britanniques peuvent-ils aussi compter sur les États-Unis, la special relationship, formule incantatoire plus que relation d'avenir?
Bah cette relation spéciale effectivement existe encore et continuera d'exister à la fois pour en matière de politique étrangère parce que les deux ont des visions assez proches de la politique étrangère et resteront assez proches là-dessus, notamment parce que les deux sont membres de l'OTAN. Ensuite, d'un point de vue du renseignement également, puisque les Britanniques et les Américains entre autres ont des relations extrêmement proches en matière de renseignement. Mais après, c'est vrai que la question va se poser de savoir comment le Royaume-Uni va pouvoir justifier une position de choix vis-à-vis des États-Unis. Donc on a vu Boris Johnson qui a déjà fait des déplacements, donc le nouveau ministre des Affaires étrangères a déjà fait des déplacements aux États-Unis donc pour montrer que cette relation spéciale existait encore. Mais après, c'est vrai que les Américains sont beaucoup plus pragmatiques que les Britanniques sur cette relation spéciale. Donc ça, c'est une chose importante à avoir à l'esprit.
Et bien, question à suivre. Hein. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Comme chaque dimanche de l'été, c'est maintenant l'heure de la chronique d'Hubert Védrine. Bonjour Hubert.
Bonjour. Je poursuis mon évocation estivale des bonnes idées qui parfois tournent à l'auto-caricature. Aujourd'hui, comment est-on passé de la défense des droits de l'homme au droit de l'hommisme, avec toutes ces simplifications? Au départ, énoncer que chaque homme, et j'emploie là « homme » au sens générique, a des droits indéniables, quel que soit son sexe, sa religion, sa race, son ethnie, son groupe, son origine sociale, etc., est une révolution. Car depuis l'aube de l'humanité, les êtres humains, qui étaient déterminés au pire sens du terme par leur groupe d'appartenance et leur origine. Non pas que les hommes et les femmes aient été partout toujours maltraités et persécutés. On peut trouver des mesures de protection, de justice, dans des codes judiciaires très anciens, dans des lois de l'Antiquité, dans certaines actions charitables d'églises ou autres, bien sûr, mais c'était conjoncturel, fragile, réservé à une catégorie dépendant d'un bon souverain, d'un conquérant indulgent, d'un patron paternaliste. Ce qui était révolutionnaire, répétons-le, c'est le principe général, qui est bien sûr inégalement appliqué, voire carrément violé. L'espèce humaine étant ce qu'elle est, l'histoire était aussi une longue suite d'abominations et un océan de souffrances. Alors faire prévaloir le respect des droits de l'homme s'impose. Mais me dira-t-on où est le problème? Il apparaît quand le respect des droits de l'homme rejoint un autre courant de pensée occidental, qui est celui du prosélytisme missionnaire, autrefois l'évangélisation. Aujourd'hui, les droits de l'homme. Pour désigner cet activisme, on dit droit de l'hommisme, ou plus largement l'exportation de la démocratie. Le wilsonisme, du nom du président américain Woodrow Wilson, fils de pasteur, au début du XXe siècle. Ce courant a inspiré à plusieurs reprises les politiques étrangères occidentales récentes, notamment américaines et françaises, au cours du XXIe siècle, et plus intensément que jamais depuis la disparition de l'URSS. En 2003, l'Amérique de George W. Bush prétendait apporter la démocratie à l'Irak, en l'envahissant. En France, qui se revendique de façon un peu prétentieuse comme la patrie des droits de l'homme, je signale d'ailleurs que Robert Badinter corrige malicieusement en disant non, c'est la patrie de la déclaration des droits de l'homme. En France donc, c'était le long débat autour de l'ingérence, impératif médiatique longtemps assez populaire, mais qui avait le droit, ou même le devoir, de s'ingérer. Chez qui? Au nom de quoi? Dans quel but? En dehors des conditions prévues dans le cadre légal du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. tout ça n'appelle pas des réponses évidentes. Après 25 années d'intervention occidentale autorisée ou non, il faut y réfléchir plus que jamais. En effet, alors que l'attachement aux droits de l'homme est profond, presque identitaire dans tous les pays occidentaux, et une espérance puissante dans les pays où la démocratie n'est pas encore instaurée, le droit de l'hommisme prosélyte, interventionniste, a montré son épuisement et ses limites, parce qu'il s'est laissé confondre avec la domination puis l'ingérence occidentale. C'est cet interventionnisme occidental qui est rejeté presque partout dans le monde, en dehors de l'Occident, voire en son sein, mais pas les droits de l'homme en tant que tels. On peut d'ailleurs penser qu'ils seront de mieux en mieux respectés en raison des exigences internes croissantes des gens, y compris en Chine, en Russie, dans le monde arabe, mais de moins en moins du fait de nos injonctions souvent contre-productives. C'est peut-être vexant pour nous, mais la tendance historique n'est pas mauvaise, il faut nous y faire.
Merci à nos invités Mélanie Torrent, Vivien Pertuso d'avoir participé à cette discussion de deuxième partie sur l'avenir de l'influence britannique dans le monde. Merci à Quentin Dickinson pour la liaison en duplex et évidemment un très grand merci à toute l'équipe pour la préparation. Xavier Martinet, bien sûr, Céline Leclerc et Mao de Butler. Émission réalisée par Milena et Ligue. À la prise de son aujourd'hui, Pierrick Monsigny. On se retrouve dimanche prochain, 12h40 le samedi. Vous avez l'heure. Vous avez rendez-vous à la même heure avec Julie Gacon pour une semaine en France. En attendant, il est presque 14h sur France Culture. Très bel après-midi.